en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le personnage historique dont nous allons dresser le portrait dans cette émission fut un homme politique de haute importance qui rédigea la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. En France, on retient surtout de lui son invention du paratonnerre. Vous l'avez compris, il s'agit de Benjamin Franklin. Nous fêtons en 2006 le tricentenaire de sa naissance et c'est une bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir ce véritable self-made man, l'incarnation type du rêve américain. Rien ne le prédisposait à une carrière de diplomate, il était plutôt parti pour reprendre la boutique de son père, fabricant de chandelles, ou travailler peut-être dans l'imprimerie de l'un de ses frères. Et puis, le saviez-vous, Benjamin Franklin fut élu associé étranger à l'Académie des sciences en 1772. Et puis, il a mis aussi en place la première université américaine, les premières bibliothèques publiques. Et sur un tout autre plan, il confectionna un poêle à bois. Et puis, il découvrit la nature électrique de l'éclair, ce qui le conduira donc à inventer le paratonnerre. Nous vous proposerons en fin d'émission d'écouter également un extrait d'une musique interprétée par un passionné Jean-Claude Chapuis qui a composé une musique avec l'harmonica de verre, encore une autre invention de Benjamin Franklin. Nous verrons en détail de quoi il s'agit. Et justement, pour en parler avec nous, Jean Audouze nous a rejoint en studio. Jean Audouze, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Vous avez également dirigé le Palais de la Découverte entre 1998 et 2004. Vous êtes actuellement membre du comité international chargé d'évaluer les programmes scientifiques de l'UNESCO. Et puis également, vous travaillez à la réalisation à chaque année du Salon européen de la recherche et l'innovation. Alors, Jean Audouze, pour commencer, comment avez-vous fait la connaissance de Benjamin Franklin ?
Eh bien, j'ai fait la connaissance de Benjamin Franklin, je dirais un petit peu, c'est dans la suite logique de mon passage au Palais de la Découverte. Parce que, comme vous le savez, au Palais de la Découverte, il y a de nombreuses expériences électrostatiques. Par exemple, vous avez des cheveux un peu longs. Et donc, une des grandes expériences que l'on fait, c'est de montrer que lorsque on met une jeune femme ayant les cheveux longs, eh bien, les cheveux se mettent à se dresser sur la tête. Voilà. Et donc, c'est une des expériences que Benjamin Franklin a véritablement inventée. Donc, l'électrostatique et Benjamin Franklin, c'est véritablement font très très bon ménage. Et lorsqu'il s'est agi, parce que dans France, il y a très peu d'ouvrages consacrés à Benjamin Franklin, quand les éditions d'Uno ont imaginé qu'ils allaient faire un hommage, justement, redonner aux lecteurs français les grands écrits de Benjamin Franklin, ils m'ont proposé de coordonner cette publication.
Alors voilà, c'est là où je voulais tout simplement en venir, c'est que en faisant la connaissance de Benjamin Franklin, vous êtes venu à réunir les textes et à les commenter ouvrage édité aux éditions d'Uno en 2006 et qui s'intitule « Moi, Benjamin Franklin, citoyen du monde, homme des Lumières ».
Ben oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a deux parties en gros dans ce livre. Il y a d'une part une magnifique autobiographie de Benjamin Franklin, on aura peut-être l'occasion revenir sur certains épisodes de sa vie. Vous avez rappelé qu'il était membre étranger de l'Académie des sciences, donc c'est véritablement un monsieur de cette maison d'où nous parlons. Et d'autre part, la deuxième partie du livre est effectivement un résumé, parce qu'on a repris les quatre grandes lettres qui caractérisent ses inventions. Lorsqu'on parle du paratonnerre, je crois qu'on ne fait pas tout à fait justice au rôle fondamental que Benjamin Franklin joue dans l'histoire des sciences. Après qu'il ait compris ce qu'était l'électricité, qu'il s'est aperçu qu'un orage, finalement, c'était un événement électrique de grande ampleur, il s'est dit « comment vais-je faire pour prémunir mes concitoyens ?» de ces incendies, et donc d'où l'invention du paratonnerre. Et puis évidemment toute cette partie de sa vie où il a été diplomate, où il a créé, enfin c'est l'un des pères fondateurs de la République américaine, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'un de ceux qui ont écrit la Constitution américaine.
Alors, voilà, vous avez évoqué tous les thèmes dont nous allons parler.
Bien sûr, mais on va les reprendre, bien sûr, tranquillement.
Et nous allons, bien sûr, maintenant les reprendre tranquillement. Alors, on va revenir quand même 300 ans en arrière.
Tout à fait.
Et nous arrivons donc en 1706, c'est la naissance de Benjamin Franklin.
À Boston. Donc, il ne naît pas, en Pennsylvanie. Hein, il va naître, effectivement, dans le Massachusetts. C'est une famille récemment immigrée qui vient d'Angleterre. Il est une famille de protestants, on appelle les Quakers, vous savez, assez rigide, assez strict. Et son père, vous l'avez dit tout à l'heure, fabriquait des chandelles et du savon. Et donc, au début, cet enfant qui aurait pu faire des études pour des raisons financières, il a été amené à aller dans des institutions un peu moins importantes, mais il s'est fait, un peu à la force du poignet.
Voilà, il va dans une école d'écriture et d'arithmétique.
Bien sûr. Alors, il va commencer d'abord par être apprenti chez son père, et puis vers l'âge de 14 ans, l'un de ses frères, qui s'appelait John, était donc imprimeur et le prend comme apprenti imprimeur. Alors, il faut pas croire que la vie de Franklin, c'est un monsieur qui était souriant tout le temps, etc. Il a eu des conflits avec plusieurs personnes.
Et puis, il était un peu seul quand même. Il avait une période un peu solitaire.
Enfin, bien sûr.
De nature un
peu
solitaire.
Oui, solitaire. Et puis d'autre part, il ne supportait pas, je crois que ça c'est un des traits aussi qu'on retrouve tout au long de sa vie. Il voulait bien obéir aux gens, mais c'était pas dans sa nature. Sa nature, c'était d'être un peu un homme libre, un homme qui était, qui faisait des entrepreneurs, etc. Et donc, l'autorité de son frère, il l'a assez vite, ça lui a pesé. Et donc, il est devenu lui-même imprimeur, d'abord en coopération avec un autre. Mm-hmm. Et puis, il a acquis sa propre imprimerie. Et alors, immédiatement, après, vous allez voir, on va dérouler un nombre de métiers assez importants.
Là, toujours pour le moment, à l'imprimerie quand même.
Oui et non, oui, c'est vrai. Là, vous avez raison qu'après, il va devenir donc écrivain, journaliste. Et puis, il va devenir plus tard chef des postes. Alors, vous me direz, tout ça, c'est lié d'une façon ou d'une autre à l'imprimerie. Mais lorsqu'il est, par exemple, il acquiert une compagnie d'assurance, ou bien lorsqu'il devient chef des pompiers, il s'occupe on ne peut pas dire que c'est directement lié à l'imprimerie. Mais vous avez raison. La chose écrite, c'est véritablement le dénominateur, une chose très importante qui relie un peu ses activités de jeunesse.
Et alors, une précision, c'est qu'il est déjà très jeune. À 17-18 ans, il a déjà acquis une expérience assez impressionnante.
Ah,
peut-être
que
c'est l'époque qui veut ça aussi. Mais maturité.
Lorsqu'on voit tout ce qu'il a pu faire en 84 ans, puisqu'il est mort en 1790, même jusqu'à la fin, lorsqu'il avait 75 ans, on va retrouver, il était encore d'une grande activité, député, président de l'État de Pennsylvanie pendant ces dernières années. Il a même monté dans un ballon à la fin. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est très actif, très aventureux, jouant avec ses camarades au bord des fleuves ou des rivières, et puis... Mais ce qui le caractérise, c'est deux choses. La première, c'est qu'il vient d'un milieu modeste, alors que la plupart des scientifiques de l'époque, ce sont des nobles, c'est d'Alembert, ce sont des gens qui fréquentent qui ont fait des études, puis qui fréquentent les rois. Diderot est avec l'impératrice de Russie, la tsarine, etc. Donc, ce sont des gens qui font partie de l'aristocratie. Alors que lui, il a une approche très, plèbe, c'est plébéien. Et même dans son pays, lorsqu'il n'est pas le seul à créer des académies, puisque des universités, puisque lui, il crée l'université de Pennsylvanie au moment où Jefferson va créer l'université de Virginie.
Oui, mais il émet une dimension sociale.
Voilà, Jefferson, c'était un patricien, c'était un aristocrate, alors que lui, au contraire, était un homme du peuple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième caractéristique très importante, je crois, dans son œuvre, c'est le côté manuel, c'est-à-dire pas le Sancho, mais presque. Hein, c'est-à-dire que c'est pas du tout un scientifique qui était versé dans des grandes théories, dans des grandes...
Il était dans l'aspect pratique.
Dans l'aspect pratique. Alors, ça veut pas dire qu'il était mauvais mathématicien, il a fait des carrés magiques. Enfin, je veux dire, il avait une bonne culture, mais ce qui l'intéressait véritablement, c'était de fabriquer... de faire des choses simples.
Et comment améliorer la vie de tous les jours ?
Voilà, oui. Et alors, par exemple, pour revenir... Alors, sur l'électricité, ce qui est assez amusant, c'est véritablement un moment bien précis de sa vie. Hein, ça se déroule... Il avait à peu près 34, 35 ans. Et il commence en 1740, à peu près. Et puis, il va travailler véritablement. Ça va être la plus grande partie de sa vie, jusqu'en 1752-53. Donc, ça va durer une douzaine d'années. Alors, il commence par faire des expériences. Il n'était pas tout seul, il avait des camarades. Il y avait, je crois, un menuisier, il y avait un prêtre, ou un pasteur, il y avait un médecin. Donc, il fait la première expérience où l'électricité de cet oral est capturée par son dispositif. Ça, c'est ce qui se passe donc en mai 1752. Ça a évidemment un énorme impact. Le roi de France est donc averti, enfin donc véritablement, parce qu'on attribue à Benjamin Franklin la paternité de l'idée qui a prévalu pour arriver à cette expérience. Oui. Et donc, vous savez qu'à cette époque-là, évidemment, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Donc, il se trouve que Franklin ne l'a su que 3-4 mois après. Alors lui, il a conçu une autre expérience très différente. Le magnifique cerf-volant.
On a cette image d'Épinal, d'ailleurs, hein, quand on parle de Franklin, d'imaginer quelqu'un qui se balade avec un cerf-volant en temps d'orage.
Oui, lui, en temps d'orage avec son fils. Et puis, alors, il avait suspendu à son cerf-volant une clé. Et il refait la même expérience, mais avec son cerf-volant, c'est-à-dire ça se passe un mois après, et donc identique, c'est-à-dire qu'il capture effectivement l'électricité d'un autre orage qui s'est passé un mois après aux États-Unis.
Alors, mais justement, sur cette expérience, je crois savoir que Benjamin Franklin avait d'immenses doutes, en fait. Il n'était pas du tout assuré du résultat.
Bien sûr.
Et il savait qu'on l'attendait au tournant, pour le coup.
Oui, parce que d'abord, c'est pas nouveau. Hein, la communauté scientifique n'est pas une communauté angélique, où tout le monde s'adore, etc. Par exemple, l'abbé Nollet était dans ces expériences-là.
Il revendiquait d'ailleurs la paternité.
Bien sûr. Et alors, l'expérience, évidemment, française, sur laquelle Buffon et d'autres d'Alibar font une grande publicité, non, ça ne lui plaît pas beaucoup. Et il va s'ingénier à essayer de minimiser la découverte de Benjamin Franklin. Par exemple, alors, il se produit en 1753 un accident, c'est-à-dire que un savant danois qui travaille à Saint-Pétersbourg fait l'expérience et puis s'électrocute. Alors évidemment, ça permet à Nollet essaye, si vous voulez, de tirer parti de cet accident pour jeter le discrédit sur Franklin. Mais enfin, il n'y arrive pas. Franklin est donc élu, comme vous l'avez dit, quelques années après.
En 1772, donc
voilà,
quand même quelques années plus tard, 20
ans. Ben, c'est comme le prix Nobel, hein, on ne l'a pas tout de suite. Hein, c'est ça. Donc, il va utiliser, si vous voulez, les années 1750-1755. Il va commencer à inventer le principe donc du paratonnerre, c'est-à-dire une grande tige métallique, isolée bien sûr du reste de la maison que l'on veut protéger, et puis qui va donc
attirer l'éclair.
Et donc faire en sorte que l'électricité va dans la terre. Alors, je crois qu'il invente, il fait un certain nombre d'expériences sur des maisons qui sont assez concluantes, mais je crois qu'il a eu de la chance parce qu'il s'est trouvé que dans ces années-là, les orages n'étaient pas trop forts. Je pense que s'il avait eu des orages un peu plus conséquents comme ils sont produits de temps en temps, peut-être que son dispositif ne serait pas arrivé à être assez robuste. Alors, il faut voir que les orages, c'était véritablement à cette époque-là une des grandes causes d'incendie. Donc, c'était pas quelque chose. On peut se dire aujourd'hui, paratonnerre, c'est amusant.
C'est un gadget.
C'est un gadget. À cette époque-là, c'était pas un gadget du tout parce que ça créait, je dirais, un orage. C'était véritablement un cataclysme qui était. Et donc, son travail suivi de beaucoup d'autres parce que on arrive à une époque où son activité, je veux dire, diplomatique, son activité
d'homme politique
va prendre le dessus. Mm-hmm. Et il va laisser à d'autres le soin d'améliorer son invention et puis de devenir le paratonnerre. Mais ce qui est amusant, c'est ça, c'est la coïncidence, c'est quand même, il faut le dire, la communauté scientifique française qui a établi la première expérience issue donc des travaux de Franklin. Donc il a acquis, si vous voulez, sa renommée grâce, en grande partie grâce à la communauté française.
Alors justement, vous parlez de la communauté française et de l'impact qu'a pu avoir Benjamin Franklin sur la communauté française. Est-ce qu'il a
attribué, mais là-dessus, il n'a pas cherché, si vous voulez, il pensait que c'était sa façon à lui à payer son tribut à la communauté à laquelle il appartenait. Mais c'est vrai aussi que cette activité scientifique réussie a été d'une certaine façon, l'a beaucoup facilité la vie. Lorsqu'il est venu, vous savez, il est resté quand même 9 ans en France, à Paris, plus exactement, vous voyez le Trocadéro, donc vers le musée de la Marine, il y a sa statue et il y a une rue qui porte son nom. Et c'est là où il a séjourné pendant 9 ans. Il a été d'une certaine façon, je l'ai dit à l'ambassadeur actuel des États-Unis, c'est le premier ambassadeur des États-Unis en France, c'est Benjamin Franklin. Avant ça, évidemment. Alors ce qui est intéressant, en travaillant pour préparer ce livre, je ne savais pas qu'il y avait une partie de sa vie où il a été assez anti-français. Par exemple, et c'est lui qui a convaincu les Anglais qu'il fallait essayer de conquérir le Canada contre les Français. Donc, il ne faut pas croire que il a été francophile tout au long de sa vie. Mais ce qui a fait que il est devenu un pro-américain, enfin, qu'il a cherché à libérer ce qu'on appelait les provinces à ce moment-là, hein, les provinces américaines.
Les provinces américaines.
C'est ça. Et c'est le fait que les Anglais ont été vraiment d'une infinie stupidité. Ils ont voulu faire payer des impôts qui étaient à la fois mal choisis et tout à fait injustes. D'autre part, ils l'ont vexé. Il a été à plusieurs reprises essayé de plaider pour la communauté, et donc il a été extrêmement mal reçu, de façon condescendante. Et à ce moment-là, effectivement, il s'est décidé à se tourner vers les Français pour avoir le soutien à la fois financier et aussi, vous avez vu les armées, quelques armées françaises qui sont allées soutenir les insurgés américains. Et donc, toute cette activité diplomatique.
Pierre Chausset-Nérès est également, pendant de nombreuses années, directeur du Palais de la Découverte. Jean Audouze, avec vous, donc, nous parlons de la vie de Benjamin Franklin. Nous fêtons cette année 2006 le tricentenaire de sa naissance. Nous avons parlé pendant la première demi-heure de ses découvertes scientifiques et puis également de sa jeunesse. Maintenant, nous allons aborder le personnage politique, puisque nous le savons tous, il a rédigé notamment la déclaration d'indépendance des États-Unis. Il a également eu d'autres rôles, mais c'est vraiment le rôle phare. Comment il est arrivé dans la politique, Benjamin Franklin?
Il est arrivé un petit peu naturellement. Je dirais que d'abord, comme on l'a dit peut-être tout à l'heure, il a eu des fonctions un peu officielles. Il a été chef des postes de l'ensemble des provinces après avoir été le chef des postes de Pennsylvanie. Il a eu un rôle. Donc, si vous voulez, il a occupé des fonctions à la côté de fonctions, je dirais, privées. À l'époque, on pouvait être à la fois, avoir des entreprises privées puis avoir un rôle un peu pas de fonctionnaire, mais de coordonner un certain nombre de choses. Des fonctions officielles. Et donc, naturellement, il est devenu un personnage assez important en Pennsylvanie. Et puis, lorsqu'il s'est agi justement de négocier avec la Grande-Bretagne, le pays colonisant, en disant, puisque c'était les colonies. Hein. Oui. Et naturellement, c'était lui qui a été donc conduit à dialoguer avec. Il a été fait plusieurs voyages à Londres, justement, pour faire valoir, dans certains cas, pour rendre service à la couronne britannique dans l'affaire du Canada, puisque c'est lui qui a véritablement poussé, ou tout au moins, il a été l'un de ceux qui ont encouragé les Anglais à poursuivre, de faire en sorte que l'influence française soit diminuée, ou tout au moins faire une guerre au Canada
pour récupérer le territoire.
Pour récupérer le territoire. Et puis, donc, il y a eu une époque, je dirais, de bonne intelligence avec la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, effectivement, dû à un certain nombre de vexations, de faux pas politiques des Anglais, il s'est convaincu qu'il fallait que les provinces acquièrent leur indépendance.
Alors, justement, il y a un mot que vous avez prononcé, c'est le mot « dialogue ». Il y a une précision qu'il faut apporter, c'est que Benjamin Franklin avait beaucoup de talent pour parler convaincre. Oui. Il arrivait à convaincre n'importe qui de pouvoir se jeter dans la scène.
Enfin, oui, tout à fait. Ça, c'est une des caractéristiques tout au long de sa vie, que ce soit lorsqu'il était scientifique, lorsqu'il était imprimeur. C'est véritablement un homme de dialogue, un homme de consensus.
L'art de l'éloquence.
C'est l'art de la persuasion. Et il va effectivement mettre ses talents d'orateur et de négociateur, il va les utiliser pour effectivement faire en sorte que la France, qui était à l'époque les grandes puissances, c'était la Grande-Bretagne et la France, eh bien c'était les grandes puissances du moment, pour faire que cette grande puissance française, eh bien, apporte son soutien à ces colonies qui essayaient donc de devenir indépendantes. Et donc il est resté pendant 9 ans à Paris, dans le quartier de Passy, là où est sa statue et où il y a un collège ou un lycée qui s'appelle Saint-Louis de Gonzague, mais que tout le monde appelle, en tout cas dans cette région, appelle Franklin. Donc effectivement, le souvenir de son passage reste vivace dans cette partie de Paris, et où effectivement, il va être un véritable ambassadeur, il va être reçu. Alors justement, son prestige de grand homme de science, d'académicien, etc.,
joue aussi.
La bonne société française va lui faire accueil, et de fait, le parti aristocratique, représenté par la reine Marie-Antoinette, et puis les gens qui tournent autour d'elle, vont prendre fait et cause pour cet homme et pour ce qu'il représente. Et Vergennes, finalement, va être convaincu, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'époque, va être convaincu qu'il faut, et va convaincre Louis XVI. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, une bonne partie de son activité qui était tournée vers les autres. Et je pense qu'il était convaincu que c'était la chose à faire pour les gens qui vivaient en Pennsylvanie, pour les gens qui vivaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et je crois et c'est à ça qu'il s'est attaché. Après, il a été longuement député, mais la fin de sa vie, il y avait des présidents d'État, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 7-8 États, Massachusetts, Connecticut, New York, enfin, c'était les États-Unis, c'était pas les 50 États.
Les 50 États,
oui. C'était vraiment un petit noyau, hein. Faut pas oublier qu'on était déjà, lorsqu'on allait dans le Colorado, etc., on était déjà des terres inconnues ou presque, hein. On n'est pas au 19e siècle, on est au 18e siècle, au moment où véritablement c'est la naissance de cette petite république qui était confinée à la côte est des États-Unis, et même qui n'allait pas très bas, hein, puisqu'on allait jusqu'en Caroline, mais au-dessous, c'est-à-dire les États, par exemple le Texas, etc., c'était également des terres totalement inconnues. Donc c'est véritablement un petit pays, un pays relativement modeste, mais qu'il va contribuer à mettre en place, et pas seulement du point de vue diplomatique, mais en contribuant lui aussi. Ils étaient trois, hein. J'ai parlé de Jefferson, puis un autre. Il a été l'un des rédacteurs de cette
déclaration d'indépendance en 1776. Il était membre du Congrès en 1775 dès son retour.
Bien sûr, parce que autant Franklin est un homme peu connu en France, hein, on parle tonnerre, où on sait qu'il a passé du temps à Paris, etc., mais lorsque vous allez de l'autre côté, lorsque vous allez aux États-Unis, si vous allez par exemple dans une grande librairie, vous allez avoir des panneaux entiers de biographies. Il y en a énormément. Si vous allez d'autre part, vous prenez, si vous avez un billet de $100, évidemment, il y a son effigie sur le billet de $100.
Et donc, billet de $100.
Oui, $100, oui. Et donc, c'est un personnage. Il faut voir que Franklin est aux États-Unis considéré comme un immense personnage. Et je dois dire qu'il le mérite, parce que plus on étudie sa vie, plus on s'aperçoit que c'est un homme éminemment sympathique. Je veux dire, on n'a pas une sympathie pour lui parce qu'il était amusant ou pas. Non, je veux dire, il a été véritablement quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les autres, scientifiquement, diplomatiquement, politiquement. Il a écrit, il a créé des clubs, etc. Donc véritablement, c'est quelqu'un, je pense que c'est un peu normal que les Américains lui prêtent beaucoup d'attention parce que c'est ce que les États-Unis véritablement ont de meilleur en Franklin.
Alors, pour terminer cette émission, Jean Audouze, nous allons peut-être évoquer le troisième point fort du personnage, qui est cette importance qu'il accorde à l'éducation, et à l'éducation des couches populaires, en fait.
Ah, c'est tout à fait vrai.
Par les universités, les bibliothèques publiques.
Oui. Ben, lui-même, il est le bon exemple, si vous voulez. Il y a une époque, vous le savez bien, quelqu'un pouvait, par un jeu de bourse, passer les concours, et on appelait ça l'ascenseur social, l'école ascenseur social. Et c'est vrai que, de ce point de vue, lui-même, hein, en apprenant par lui-même, dans des écoles, il sait par l'éducation. Mais il a tout de suite voulu englober les autres. D'abord, ce club, justement, du tablier de cuir, c'était une structure, c'était une sorte de club où les gens, ils venaient, ils étaient des artisans. Et ils venaient ensemble et ils discutaient.
Sujets du moment, d'actualité.
Et puis des sujets scientifiques, ils faisaient des expériences. Enfin, je veux dire, c'était véritablement une université au sens où il y avait.
C'était pas le café du commerce.
Non, éducation réciproque. Alors, parce qu'on a évoqué évidemment l'électricité, le calorifère, et je vous ai dit, il avait une imagination, il s'intéressait à tout, vraiment à tout, aux éclipses de lune, aux courants marins, je veux dire, vous allez, vous ferez entendre, je pense.
D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait de Jean-Claude Chapuis, qui est la personne en France qui réalise des concerts d'harmonica de verre, le glass harmonica. Donc, je vous propose d'écouter Rompelletier, interprété donc par Jean-Claude Chapuis, ça dure 40 secondes. Alors voici un extrait,
c'est
une musique, on plane,
oui, tout à fait.
C'est son cristallin.
Oui, ça, c'est le...
Est-ce que Benjamin Franklin jouait aussi bien que Jean-Claude Chapuis? Jean Audouze, à votre avis?
À mon avis, non. À mon avis, non. Je pense qu'il devait... De fait, les gens qui ont écrit de la musique pour cet instrument, c'est pas lui, ce sont d'autres. Je pense qu'il devait, à mon avis, s'en servir, mais de façon plus modeste et plus. Mais bon, il a quand même à son actif le fait de s'être intéressé à cet instrument, de l'avoir développé, de lui avoir donné. Comme je vous l'ai dit, Benjamin Franklin, c'était un homme important à cette époque-là. Le fait qu'il s'y intéresse, ça fait que des grands compositeurs ont écrit de la musique pour l'harmonica de verre, Haydn et d'autres, qui ont écrit pour, effectivement, cet instrument, puisqu'il dit c'est l'instrument du grand Franklin, donc ça mérite qu'on écrive de la musique pour cet instrument.
Alors, peut-être une autre invention qui n'a rien à voir avec l'harmonica de verre, mais qui mérite quand même d'être soulignée, puisqu'elle a apporté beaucoup de bien aux Américains, c'est ce fameux poêle à bois.
Tout à fait.
Qui a permis de chauffer toutes les pièces en même temps.
Oui, son poêle à bois, là aussi, c'est quelque chose qui... pour nous paraît simple, mais qu'il n'était pas à l'époque. À l'époque, si vous voulez, il a fait construire pour lui des lunettes à double foyer. Et le cathéter, c'est pas non plus lui qui l'a inventé, mais il a simplement conçu avec ses mains. Oui, puis son frère souffrait d'une affection rénale et il voulait le soulager. Et donc, il s'est dit, et voilà, je vais le construire l'instrument pour le soulager. Donc c'est toujours... Quand vous voyez, c'est le plus souvent très pragmatique tout ce qu'il fait. Hein. C'est pas des grandes équations, des grands développements. C'est des choses éminemment simples, enfin tout au moins, mais de l'observation de faits très banals et qui fait que après, on se dit, on est bien content que quelqu'un y ait pensé ou ne se soit pas inhibé. Enfin, vous voyez, pour lui, c'était pas un jeu, mais il avait une curiosité absolument débordante. Et je crois que c'est ça qui, non seulement la croyance en l'éducation, mais également de se dire, il faut être curieux de tout. Il n'y a pas de petites choses, il y a des choses à observer, des choses à faire. Il faut travailler non seulement avec son esprit, mais aussi avec ses mains. Et effectivement, le nombre des inventions est quand même assez considérable quand on regarde que cet homme, il n'a pas consacré à la science toute sa vie. Il a consacré une petite partie de sa vie
à la science. Qui nous a beaucoup aidé.
Ben oui, on va dire ça. Donc, ce qui est bien avec ce personnage, il y a des personnages, plus on les connaît, la sympathie ne croît pas nécessairement, plus on connaît un personnage. Est-ce que lui, véritablement, plus on le connaît, plus il est sympathique.
Voilà. Alors justement, pour terminer réellement cette émission, puisque nous allons bientôt entendre le générique, tout simplement, qu'est-ce que vous avez découvert sur Benjamin Franklin que vous ne connaissiez pas au moment où vous alliez vraiment travailler sur ses écrits? Quelles ont été les découvertes?
Les découvertes, positives, si vous voulez, les découvertes, c'est plus sur son caractère que sur son œuvre. Parce que son œuvre, malgré tout, on savait que c'était un homme industrieux, qui savait écrire, politique, etc. C'est un homme à la fois très simple et en même temps très exigeant sur lui-même, enjoué, qui devait être un grand séducteur. Ça apparaît vraiment dans la façon dont il raconte sa vie, etc. Oui, c'est véritablement ce que l'humanité peut produire de meilleur. Et on le découvre au fur et à mesure qu'on se familiarise avec ce personnage.
Donc c'est une belle rencontre.
Oui, moi je l'ai faite et je pense très sincèrement que d'autres peuvent faire cette découverte. C'est pas pour le plaisir de dire du bien d'un livre, mais puis il y aura l'année prochaine. Ça, c'est l'inconvénient de... Il y a des expositions consacrées à Benjamin Franklin, mais qui sont actuellement aux États-Unis, qui vont venir en France
plus tard.
Mais je crois qu'effectivement, découvrir ce personnage, c'est une belle rencontre.
Eh bien, merci Jean Audouze de nous avoir fait faire ce tour d'horizon relativement rapide. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en sait quand même beaucoup plus maintenant sur Benjamin Franklin. Je renvoie nos auditeurs qui veulent en savoir plus à votre livre. Moi, Benjamin Franklin, citoyen du monde, homme des Lumières, paru en 2006 aux éditions Dunod. Merci de nous avoir suivis et puis à très vite pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.